Vous écoutez RFI, il est 8h30 à Paris, 7h30 à Bamako. Et tout de suite, le journal d'Edouard Dupénoit.
6 mois pour se rétracter au cas où, mais une sortie dès le 29 janvier. La CDAO réunie en sommet balise la sortie pour les 3 juntes, Burkina, Mali et Niger. Elle leur laisse malgré tout une ultime période pendant laquelle ils pourront changer d'avis. Au Burkina Faso, l'homme d'affaires Anselme Kambou, bastonné, torturé, racketté, RFI a pu authentifier le PV d'audition de l'homme d'affaires qui a émergé sur les réseaux sociaux. Il y racontait face à un juge les traitements subis lors de son kidnapping il y a plus d'un an. Il est toujours détenu aujourd'hui. Les sonneries qui se succèdent et personne au bout du fil. Mayotte reste encore très isolée du reste du monde après les ravages de Chido. Les premiers avions peuvent se poser, mais le département reste encore pratiquement injoignable. À Luanda, la tripartite annoncée n'a pas eu lieu. Le président rwandais ne s'est pas déplacé en Angola pour rencontrer Félix Tshisekedi et le médiateur João Lourenço. Des suspicions d'espionnage, enfin de cellules terroristes et de planification d'attentats. Alger convoquait la semaine dernière l'ambassadeur de France. Les services secrets accusé d'avoir tenté de recruter un djihadiste pour planifier des attentats sur le sol algérien. Le sommet de la CDAO tente donc une ultime option pour retenir en son sein le trio Burkina Faso, Mali et Niger. Les dirigeants ouest-africains annoncent qu'une période de 6 mois va s'ouvrir le 29 janvier, date à laquelle le départ des 3 pays sera définitif. Pendant ces 6 mois, ils auront encore la possibilité de revenir sur cette décision, mais qu'ils ont plusieurs fois annoncé par ailleurs comme irréversible. Omar Aliou Touré, président de la commission de la CDAO.
La conférence des chefs d'État et de gouvernement prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CDAO, les 3 pays cesseront officiellement d'être membres de la CDAO à compter du 29 janvier 2025. La conférence instruit le président de la commission de lancer les formalités de retrait après la date limite du 29 janvier 2025. La conférence décide de fixer la période du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025, soit 6 mois, comme période transitoire, et de garder bien entendu les portes ouvertes aux 3 pays pendant la période de transition.
Omar Aliou Touré au micro RFI de Moïse Gomis. Sur ce sommet encore, et au-delà des applaudissements nourris pour Nana Akufo-Addo, saluée pour la transition démocratique en cours au Ghana, on retient l'annonce d'un futur tribunal spécial. Il sera chargé de juger les crimes commis en Gambie sous la présidence de Yahya Diame, précisément entre 1994 et 2017. Un tribunal réclamé de longue date par les associations de victimes de cette répression. Elle déplorait jusque-là les procès épars qui s'étaient tenus dans différents pays ces dernières années. 1 an et 3 mois après l'enlèvement d'Anselme Kambou au Burkina Faso, un procès-verbal d'audition témoigne de la violence des traitements qui lui ont été infligés. RFI a pu authentifier le document qui circule en ligne depuis plusieurs jours. Ce PV où l'homme d'affaires raconte à un magistrat comment il a été kidnappé, tabassé, torturé dès la fin septembre 2023. Anselme Kambou, toujours pas libre aujourd'hui d'ailleurs, malgré les demandes en ce sens de la justice ouagalaise. Frédéric Guerra.
Dans cette déposition faite le 27 août 2024 au juge d'instruction Abdoul Ouattara, officiant pour le tribunal militaire de Ouagadougou, Anselme Kambou revient sur son enlèvement et surtout le cauchemar qui s'en est suivi. Le 20 septembre, suite à un traquenard tendu par un ami, Anselme Kambou est kidnappé par des inconnus armés qui, dès qu'il le charge dans un fourgon, commence un tabassage en règle et un travail de pression psychologique. Tout en le frappant, on le somme de donner le nom d'officier militaire, présumé complice d'un présumé complot contre l'État. Les actes de torture se succèdent pendant son incarcération, simulacre d'égorgement, revolver dans la bouche, injection de produits douteux, tabassage encore et finalement raquette. Car, faute d'aveu, les enquêteurs deviennent raquetteurs et proposent un marché à Kambou. Contre 1 200 millions de francs CFA, 1 800 000 euros, il sera libéré. Son épouse est sollicitée, un rendez-vous à sa banque est même organisé, mais sans succès. Pour mémoire, en novembre 2023, le tribunal administratif de Ouagadougou a ordonné la libération d'Anselme Kambou, kidnappé sans raison valable par l'Agence nationale de renseignement. 15 mois plus tard, l'homme d'affaires est toujours entre les mains de ses geôliers.
Frédéric Guerra. Mayotte reçoit ses premiers vols d'aide humanitaire d'urgence. Nous sommes 48 heures ce matin après le passage dévastateur de Chido. Si le bilan officiel fait état de 11 morts, le préfet du département en redoute en fait des centaines, voire des milliers. L'alerte rouge est levée puisque le cyclone s'est éloigné et qu'il a frappé d'ailleurs hier matin le Mozambique. Les réseaux de communication sont en revanche toujours très perturbés. Il est quasiment impossible de joindre des pans entiers de l'archipel. Les étudiants Comoriens de Madagascar en font l'expérience depuis deux jours. Impossible de joindre leur famille ou leurs proches à Mayotte. Les téléphones sonnent désespérément dans le vide. Reportage Guillaume Fabry.
Chaque heure, presque depuis cette catastrophe, j'essaie d'appeler.
Cela fait deux jours que Swali Ali Mansour, président de l'association des étudiants comoriens de Madagascar, essaye de contacter son frère Jamel et un cousin qui se trouve à Mayotte. Mais son téléphone sonne désespérément dans le vide.
Votre correspondant n'est pas joignable. Vous pouvez le rappeler ultérieurement.
Et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à entrer en contact avec eux. J'ai appelé la famille qui sont à la Grande Comore, mais eux aussi n'arrivent pas à entrer en contact avec eux. Donc tous les Comoriens sont très inquiètes parce qu'on a toutes les familles partout dans les îles.
Dans son appartement d'Antananarive, Swali Ali Mansour ne lâche pas des yeux son écran de télévision où défilent les dernières nouvelles de Mayotte sur les chaînes d'information françaises.
Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aider, mais on compatit sur la situation dans l'île de Mayotte. Et nous souhaiterons aussi aux autorités qui sont sur place de mettre tous les moyens possibles pour essayer d'aider les habitants de Mayotte. Surtout pour les installations sanitaires, parce que j'ai vu que l'hôpital a été lourdement touché, mais aussi pour le rétablissement des lignes de communication, parce que si on arrive à entrer en contact avec la famille, l'inquiétude sera peut-être baissée.
En plus de l'eau et de l'électricité, le préfet de Mayotte a cité hier soir la téléphonie mobile comme besoin essentiel à rétablir au plus vite pour la population. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Antananarive, où il est 10h36, 2h de moins. À Luanda, l'Angola est la désillusion sans doute à la mesure des espoirs déchus. La réunion tripartite annoncée hier n'a finalement pas eu lieu. Cette rencontre, Joao Lourenço, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, à laquelle ce dernier ne s'est finalement pas rendu. Il y avait pourtant une ébauche d'accord de paix prête à être soumise au président de RDC et du Rwanda. Les espoirs aussi que le président angolais exprimait publiquement quelques jours plus tôt, celui de voir un texte enfin signé pour faire taire les armes dans la province du Nord Kivu. Côté rwandais, Lucie Mouillou, on explique que cette réunion n'avait en fait plus aucune justification.
D'après le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Ndungirehe, face à l'impasse des discussions ministérielles à la veille du sommet, la rencontre prévue ce dimanche à Luanda entre les chefs d'État n'avait plus de raison d'être.
On a passé 9 heures sur un seul point, du fait que le Congo a catégoriquement refusé toute idée de dialogue avec le M23, ce qui contredisait l'accord initial. Donc les chefs d'État ne pouvaient pas venir, alors que le seul point à l'ordre du jour n'était plus d'actualité à cause de l'intransigeance congolaise.
Kinshasa affirme qu'un dialogue avec le M23 n'a jamais été au programme de Luanda. Le groupe armé n'était pas évoqué dans le concept d'opération signé fin novembre, un document abordant la neutralisation des FDLR et le retrait des mesures défensives rwandaises, dont l'efficacité dépend, selon Kigali, de la recherche de solutions avec les rebelles.
Dans le meilleur des scénarios où le concept des opérations est appliqué à 100%, si on ne règle pas la question des M23 en même temps, demain matin, après-demain, la RDC va encore accuser le Rwanda et on aura fait tout ça pour rien. Donc cette question doit être réglée.
Dans un communiqué, le Rwanda dénonce également des menaces formulées par des dirigeants congolais. Mais selon le ministre, le pays reste ouvert à un accord si une proposition concrète et sérieuse incluant un dialogue avec le M23 est présentée. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Le froid diplomatique entre l'Algérie et la France s'accentue encore. L'ambassadeur de France à Alger a été convoqué il y a plus d'une semaine par le ministère des Affaires étrangères dans une nébuleuse affaire d'accusation terroriste. Les services secrets français auraient tenté de recruter à Alger un ancien terroriste revenu des terrains de guerre pour faire de lui non seulement un espion, mais aussi l'organisateur de potentiels attentats sur le sol algérien, Alexis Guilleux.
Il y a plus d'une semaine que l'ambassadeur français Stéphane Romaté a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères, mais la presse algérienne a révélé cette information seulement hier, la convocation du diplomate français n'ayant pas été officiellement annoncée. En cause, un reportage récemment diffusé par la télévision publique, dans lequel Amin Aissaoui, 35 ans, présenté comme un ancien djihadiste en Syrie et en Irak, affirme avoir été contacté à Alger par des agents français de la DGSE. D'après ses dires, ils lui ont demandé d'espionner les islamistes radicaux dans les quartiers populaires algérois, de se rendre au Niger pour s'informer sur les groupes armés, puis de constituer une cellule terroriste en Algérie en vue de commettre des attentats. Le journal gouvernemental El Moudjahid, qui cite des sources diplomatiques crédibles, écrit que l'ambassadeur de France a reçu, je cite, « la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie ». Ces agissements ne sauraient rester sans conséquence. L'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à ces tentatives d'ingérence, poursuit la source du journal.
C'est une colère qui est récurrente, enfin, et qui n'est toujours pas réglée. À Dakar, une trentaine d'organisations civiles appelaient à défiler hier contre l'inextricable problème d'obtention des visas. Se rendre en Europe ou en Amérique relève du chemin de croix incompréhensible pour ceux qui demandent les documents nécessaires. Alors pour que cette loterie du visa ne soit plus un jeu de hasard, les manifestants demandent des procédures justes et équitables.
Juliette Dubois. Dernier échauffement avant de commencer la marche. Plusieurs centaines de personnes sont réunies pour demander la révision des politiques d'octroi des visas au Sénégal et dénoncer des procédures opaques et coûteuses, comme l'explique Adja Meissa Gueye de l'Association de défense des aides ménagères.
Il y a mon mari qui voulait partir au Canada. Aussi, il avait un forum qu'il devait faire en Italie et aussi en France. À chaque fois qu'il tente, le visa lui est refusé. Il a eu tous les documents. On ne donne pas de raison, voilà, vraiment. Le pire en est que la somme qui est versée, on ne le lui restitue pas.
Décrocher un simple rendez-vous de demande de visa est compliqué, comme explique Abigail Sarr, coordinatrice du réseau Migration et Développement qui chapeaute le collectif.
Même là, il y a des intermédiaires en bas qui viennent pour demander de l'argent pour vous permettre d'avoir un rendez-vous plus proche.
Pour ces organisations, améliorer la circulation permettra de lutter contre les nombreux départs de jeunes en pirogue vers l'Europe.
Quand on favorise la circulation, ça permet de baisser un peu l'immigration irrégulière. Malheureusement, qu'on a essayé de régler à travers la répression et on a vu que depuis 20 ans, le problème est là.
Pas d'amélioration donc. Sangane Sangor de l'ONG Radeau pour les droits humains espère que les nouvelles autorités entendront leur plaidoyer.
Tout État a la possibilité, le droit de dire « c'est comme ça que j'organise les entrées et les sorties dans mon État ». Mais si les États européens persistent dans ça, nous demanderons à nos États de revenir à la réciprocité.
En novembre, le Premier ministre Ousmane Sonko avait également proposé d'instaurer la réciprocité entre pays pour les visas. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
À Dakar, où il est 7h42.